moi, je voudrais insister aussi sur les moments très drôles du film. C'est un film où j'ai énormément ri aussi, même en le revoyant, et notamment les passages avec le copain joué par Jean-Noël Pic. Moi, j'adore ce moment où il va chez son copain, où il y a des codes entre eux, il frappe à la porte en imitant Algérie française. Ensuite, il y a le jeu de la grenouille au plafond, voilà, bon, oui. Pour les initiés, oui. Demande de regarder pendant une minute une grenouille, et puis il se marre parce qu'il la voit au plafond.
Ouais, ça, c'est quand, puis, ça, c'est quand t'as 10 ans que tu joues à ça. Non,
voilà, as-tu ton livre sur le SS, tu lis comme ça, le livre sur le SS, sur la Gestapo, voilà. Et puis après, bon, il y a des moments extrêmement drôles. Alors, le copain, lui, très sérieux, après, il lui dit « Alors, je veux bien t'aider, mais dis-moi ce que je dois dire. » Il a aidé à draguer la fille, là, à draguer Véronica. « Mais dis-moi ce que je dois dire. Si j'ai quelque chose à apprendre, je fais ce que tu m'as dit d'apprendre. Je récite. N'attends pas de moi autre chose.
Ouais, » Donc là, c'est Eustache.
Voilà, il est très solennel. Là, ouais. C'est Eustache.
Il parle à Eustache, oui.
Et puis bon, il y a ces moments très drôles dans les bars aussi. Il rencontre un autre copain qui s'est fait intimider par un vendeur de taille géante qui lui a imposé donc un vêtement. Mais maintenant, il est très embêté parce que ce vêtement est trop cintré. Etc. Donc il y a des moments, de respiration qui sont extrêmement drôles.
C'est dans ce film où il y a le coup du costume vert
ou je suis en vert et contre tout.
Il est en vert contre tout.
Je suis en vert contre tout. C'est bourré de jeux de mots, bourré de moments très drôles, très. Voilà, moi j'ai trouvé très amusant. Donc le film aussi, heureusement, parce que c'est quand même un film avec un certain poids quand même existentiel, c'est un film quand même sur l'amour, c'est un film sur.
Qu'un film existentialiste, de toute façon.
C'est un film qui parle aussi par moments du suicide. Quand même avec cette femme.
On parle de 68, mais on ne parle pas de ces années existentialistes, 50-60, l'après-guerre, qui, à mon avis, saute au-dessus de mai 68 pour revenir d'une certaine façon avec ce film. Et on a parlé de Sartre tout à l'heure.
Voilà. Et puis, ces moments, malheureusement, aussi très désespérés, où cette femme apparaît, cette femme de second plan, qui s'appelle Jessa, apparaît donc avec une main, vous savez.
Oui.
Et elle dit oui, mais moi, j'ai raté mon suicide, voilà. Et là, Alexandre, très sérieux, cette fois, lui dit tu sais, moi, le suicide, j'en ai peur aussi. Et là, c'est un écho, évidemment, à la vie de Jean Eustache, qui a été traversée par des événements tragiques. Mais il y a des moments, je trouve, extrêmement drôles dans le film, et où on s'esclave, vraiment, où on rigole à gorge déployée.
Oui. Mais ces moments sont aussi des moments de malaise pour le spectateur, parce que ces plaisanteries entre eux, ces complicités sont aussi des formes de bêtises profondes des deux gars là qui ont leur tic, leurs échanges complètement autarchiques.
Oui. Les mecs entre eux.
Oui, voilà, les mecs entre eux, avec toutes les limites de la chose. Ce que montre Eustache avec beaucoup de cruauté, avec une certaine férocité. Et quand la scène dont tu as parlé, où l'ami qui lit François, alors que Léo lit Le Monde, il lui demande, Léo, enfin, Alexandre, tu as toujours tes bouquins sur le nazisme, et en effet, ils sont là sur la table. Et Léo feuillette, d'abord intéressé. On voit un rabbin qui est insulté par des nazis, et ensuite il s'arrête sur la page, l'image très connue où la jeune femme est pendue et où la femme pendue a un étrange sourire. Et Léo, totalement saisi et bouleversé, ferme le livre brusquement. Et là, il y a un moment où le côté extrême droite de son ami, Dandy, comme lui, ne passe pas là.
Avec deux foulards posés l'un sur l'autre.
Oui, deux foulards très à la mode, comme ça.
Il y a ce moment assez incroyable, il lui dit « Mais c'est quoi ce truc-là ? » Mais tu vois bien, c'est un fauteuil de paralytique. Mais tu l'as volé à qui ? Ben, je sais pas, un paralytique, je suppose. Enfin, voilà, c'est quand même un moment de provocation.
Oui, cynisme,
aussi, de cynisme, qui glace aussi d'effroi. Mais le film est souvent quand même aussi assez drôle. Enfin, il y a une dimension provocatrice, voilà,
On pourrait quand même écouter, pour prolonger sur Léo, avant de finir, le passage « Je n'aime pas les héros », deux fragments de monologue de Léo, « Je n'aime pas les héros » et puis « L'absence ». Et peut-être que ça va susciter de notre part des commentaires complémentaires.
Elle avait disparu. J'ai fini par savoir. Elle ne voulait plus me voir. Elle se cachait. Elle disait qu'elle ne m'aimait plus. Vous savez, quand on quitte quelqu'un qu'on a aimé, il faut dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Adieu, je pars, mais disparaître. Se cacher comme un criminel, c'est ignoble. Tout à coup, j'avais l'impression qu'on faisait de moi un personnage de mauvais film, de mélodrame habilement ajossé. Au moment où un homme s'aperçoit qu'il aime une femme, la femme qui l'a aimée jusque-là s'aperçoit, elle, qu'elle ne l'aime plus. C'est lamentable comme histoire. Je ne crois pas que la vie puisse ressembler à ces mondes mystérieux où on ne peut plus jamais revenir quand les portes se sont fermées. J'aurais préféré qu'elle meure, qu'elle se suicide.
Et un autre extrait, et puis l'absence.
Vous savez, j'avais un peu peur de ne pas vous reconnaître.
Vous ne m'en voulez pas pour hier. Vous savez, je suis désolée. Vous n'avez pas trop attendu, j'espère.
Si, j'ai attendu très longtemps, mais ce n'a aucune importance. Vous savez, en arrivant, j'ai regardé un petit peu partout autour de moi. Dehors, il y avait un type qui me ressemblait. Tout d'un coup, je ne l'ai plus vu. J'ai pensé que vous étiez peut-être trompé, que vous étiez parti avec lui.
Non, je ne me serais pas trompée. Alors vous m'avez attendu longtemps, ça m'ennuie.
Je vous ai dit, ça n'a aucune importance. Au contraire, ça m'a même arrangé. Il y a longtemps qu'on ne m'avait pas posé de la fin. C'est un mot que j'avais presque oublié. Vous l'avez fait ressurgir du passé, comme d'autres mots qu'on n'entend plus. Par exemple, on n'entend plus jamais le mot « limonade ». Personne ne dit plus « j'ai bu une excellente limonade à midi ». Je pensais à ça en vous attendant, et même quand je ne vous attendais plus, car je restais là. Je me disais, si elle vient maintenant, je vais lui parler de limonade, pour voir la tête que vous auriez fait. Et puis, je n'ai jamais compris les gens qui, sans se connaître, trouvent des sujets de conversation. Il faudrait se taire, se regarder en silence, bien parler beaucoup, parce que ça revient au même. Mais chercher ses mots, choisir celui-ci ou celui-là, pourquoi? Vous savez, en général, les gens, les femmes, me plaisent pour des raisons extérieures, des raisons qui n'ont rien à voir avec elles. Poser sur elle comme une robe de chambre, un manteau qu'on peut poser sur une autre. Une femme me plaît, par exemple, parce qu'elle a joué dans un film de Bresson. Ou bien parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme qu'on admire que de lui prendre sa femme? En ne venant pas hier, vous m'avez permis aujourd'hui de parler de votre absence. Alors qu'hier, je n'avais rien à vous dire. Vous avez installé quelque chose entre nous.
Oui, là, on a les deux aspects du talent extraordinaire de Léo, dans le tragique, le pathétique, et dans cette espèce de légèreté pleine d'humour, à la Sacha Guitry,
voilà.
Qui est un des modèles de
ce que je remarque quand même dès le départ, c'est la sensualité de la voix de Léo, malgré cette diction
la musicalité,
froide.
La musicalité.
Il y a une sensualité même, il y a quelque chose de très d'incroyable, et qu'il a encore dans le jeu, dans sa raideur parfois de jeu, on a plus de mal à capter, mais là avec que la voix c'est intéressant.
Les deux extraits sont magnifiquement choisis par Monique. Dans le premier extrait, juste avant il y avait l'évocation de la violence conjugale avec le sang. Il disait même qu'il y avait du sang sur les murs, qu'ils n'arrêtaient pas de se taper dessus. Donc c'est ça aussi qui est très original dans le film. Il n'hésite pas, Stache, à mettre des choses gênantes, sordides. Et dans le deuxième extrait, effectivement, il y a
très paradoxal, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue au rendez-vous, ça l'a arrangé, oui. Mais c'est pas vrai.
Il y a la musicalité, il y a l'humour.
Le côté littéraire, si tu veux, il reconstruit un peu peut-être.
Voilà, mais enfin, il n'hésite pas aussi à parler de zone d'ombre, de quelque chose de très sombre aussi. Il va chercher en lui, pour faire ce film, quelque chose aussi de très sombre.
Ah oui, Eustache, oui.
Eustache, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces extraits sont
différents. Mais sur ce deuxième extrait, effectivement, il y a cette légèreté de dire, vous n'êtes pas venu au rendez-vous, ça m'a surpris, mais en même temps, j'en ai fait autre chose. Voilà. Et ça c'est très dandy.
Oui, on peut parler de l'absence.
Là, ça marche. Là, c'est très dandy et là, ça fonctionne très bien. Et Léo, va falloir quand même. Moi, je le répète encore, je pense que c'est certainement un de ses plus grands rôles parce qu'il a une panoplie de possibilités à travers toutes les errances de langage qui sont repérées par Eustache, ses propres errances certainement, ses propres compositions. Et voilà. Alors, je vais peut-être juste dire ça. J'ai lu des choses, alors à propos de la maman et la putain Jean Eustache, j'ai lu des choses sur le film qui sont plus intéressantes que ce que je peux vous en dire. D'une part, je n'aime pas l'appellation réaliste et espère ne pas faire du cinéma de cinéma réaliste. J'aime le cinéma fantastique. Pour moi, le cinéma fantastique, c'est, on dirait d'ailleurs, Léo qui pourrait dire ça, hein, c'est Jean Renoir ou Mizoguchi, beaucoup plus que Terence Fisher. C'est Bresson également. C'est la réalité qui est fantastique. Si mon film est réussi, c'est un film fantastique selon mon goût. Il y a deux personnages réels, Marie et Alexandre, qui vivent ensemble et qui s'aiment, mais alors que Marie s'assume totalement, Alexandre a besoin d'autre chose Et il a eu, je pense, avant Marie, une liaison avec une femme. Et comme cette femme l'a quitté, il cristallise totalement sur l'amour perdu et il oublie un peu la femme avec laquelle il vit. À partir de là, il va essayer de se fabriquer un amour. Voilà, il rencontre le personnage d'infirmière avec laquelle il pourrait avoir une bien aventure de coucherie. Mais comme il est un peu plus compliqué que ça, il veut que ce personnage devienne une créature qu'il aurait fabriquée. Et l'on voit bien par rapport à l'extrait. Il veut être aimé, et comme il a été abandonné une fois, il va faire en sorte que Véronica ne l'abandonne pas. C'est ce que dit Eustache.
Oui, alors, pour faire écho à ce que tu nous as lu, là, sur le fait qu'il aime les films fantastiques...
Oui, Mise au boucher au noir.
Oui, mais beaucoup ont souligné la parenté de ce film avec des films de Murnau. Et on pourrait dire que, Véronica, tu as évoqué déjà tout à l'heure, il y a une heure peut-être, le maquillage de Véronica, ses yeux charbonneux, le caractère désuet de cette coiffure à tresses,
le teint très pâle,
la pâleur, et le fait qu'elle est comme une sorte de fantôme de la nuit, quand on la voit par exemple rentrer à l'hôpital La Hennec, bon, avec sa longue robe, et son châle noir et la démarche, on pense en effet à quelque chose qui est du côté de vampires.
Nosferatu.
Oui, oui.
Bah,
de toute façon...
Liane Guiche, des actrices
comme ça. Aussi, oui, voilà. Oui. Donc, Griffith, ouais. On est dans une sorte de fantastique avec cette présence fantomatique et nocturne. Et puis, on peut dire que dans le monologue final, de 8 minutes, ouais. Elle vampirise complètement le personnage de Léo qui paraît vidé de sa substance.
Oui, c'est ça.
Qui devient muet totalement, alors que jusqu'alors.
Oui, parce que comme il y a beaucoup d'émotions, là, ça vient re-remplir quelque chose qui n'était pas aussi. Aussi émotif chez lui, en tout cas, oui. Enfin, en tout cas en apparence.
Alors, tu as lu dans le passage de la critique, là, que. Elle est peut-être une création, finalement, une créature. Et en disant une créature, on est de nouveau dans...
Chez Frankenstein,
oui. Et en quelque sorte, il crée Véronica.
Chez Frankenstache.
Et Frankenstache, oui. Et il y a un retournement, puisqu'elle lui prend la parole. Et à travers la parole qu'elle va développer dans cette scène d'ivresse, dont Eustache dit qu'il lui a prêté les accents de la sincérité dans ce monologue, peut-être pour qu'elle trompe Léo. Donc Eustache lui-même fait l'hypothèse que tout cela est fin et joué de la part de Véronica pour prendre le pouvoir et pour aboutir à cette scène finale où elle va lui arracher... la promesse du mariage, d'une manière qui est totalement paradoxale,
elle le prend de biais, ouais, par rapport à son discours froid, justement.
Et on pourrait donc écouter le monologue, un très court fragment du monologue, c'est dommage, mais ce sera ainsi, de Véronica.
Pas de caresses vagas, Alexandre, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'en tripotant les seins d'une femme ou son sexe, mais qu'est-ce que vous croyez? Enfin, ce qui me concerne, c'est pas ça du tout. Et je vous aime. Et je le dis de mon mari. Votre sexe. Regarde-le comme il a un super complexe avec son sexe. Votre sexe, Alexandre, tu me fais tant jouir. Votre sexe, Alexandre, n'a pour moi aucune importance. Et sur ce, elle se sert à un autre perno.
C'est très bien.
Donc là aussi, ambivalence de la scène.
Oui, et puis parler de la sexualité comme ça d'un homme, de la part d'une femme, ben oui, en 73, ça n'a peut-être pas été tellement fait. Chez les autrices, il y a peut-être un Ice Nin qui a fait ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors moi, j'ai encore un extrait, si j'ai le temps de le dire, de Alain Philippon. Qui dit « Dans cette sorte d'oratorio à trois voix, enregistré en son direct, qu'est la maman et la putain, cette théâtralité, plus sensible chez Léo que chez ses deux partenaires, présente deux aspects essentiels. D'une part, un goût prononcé pour la scène, de la séduction ou de ménage, et pour la représentation. Le va-et-vient de Léo, dans ses moments de colère ou de tristesse, de sincérité à la simulation, envahit absolument certains plans. Regarde-le. Un maximum de cinéma, dit Marie à Véronica. Un maximum de cinéma.
Alors, Véronica, c'est... effectivement, il y a ce côté très cru du langage. Hein. Tu dis souvent le verbe baiser, j'avais envie d'être baisé. J'adore les métèques, j'adore passer avec les métèques, et ça me fait plaisir aussi. Mais en même temps, il y a cette pudeur aussi, à un moment donné, elle dit, quand je ne suis pas complètement ivre, je suis super pudique, j'éteins la lumière, vous permettez.